Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure. Et pour la prochaine heure, je suis également en agréable compagnie puisque j'ai le plaisir d'être en compagnie d'un spécialiste, d'un historien de la bande dessinée, également d'un auteur, Michel Villot. Bonjour.
Bonjour Raymond, ça va bien?
Ça va très bien. Et Michel, en fait, ce n'est pas par hasard que tu es avec nous aujourd'hui et que tu es avec nous toute l'émission. Les auditeurs auditrices se rappelleront qu'on t'a déjà parlé l'automne dernier à l'occasion de la sortie du premier tome de BDQ, donc l'histoire de la bande dessinée québécoise. Un tome qui nous amenait des origines presque de 1792 et des environs jusqu'aux années 1968. Et ben, tu es avec nous aujourd'hui parce qu'il y a le deuxième tome de cette série-là, de ce travail-là que tu es en train de faire, qui vient d'arriver sur les étaux des libraires. Donc, le tome 2 s'appelle « Le printemps de la bande dessinée québécoise » et on va de 1968 à 1979. Et je vais redire la même chose que j'avais dit l'automne dernier et le répéter, mais bon, bis placem repeditas, comme on dit. C'est des ouvrages qui me semblent essentiels, importants, autour de la BD québécoise. Et un peu à l'image, d'ailleurs, du premier tome, Michel, on n'est pas dans la fine analyse, on est vraiment plus dans l'idée de témoigner de l'amplitude de la production, de recenser ces publications-là, d'en dresser de l'inventaire et quand même d'en faire une certaine analyse, une certaine description.
Oui, exactement. Mon intention a toujours été la même là, depuis le premier tome, c'est de présenter qu'est-ce qui existait. Donc, de dire qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui a été produit, parce que nos connaissances en matière d'histoire de la bande dessinée au Québec sont encore assez restreintes. Donc, j'ai essayé de faire un panorama le plus complet, là, un survol le plus complet de ce qui a été publié, ce qui a été fait, quels étaient les artisans qui ont participé à ça, autant pour les magazines, les albums et tout ça, les éditeurs. Et bien, je laisse le soin à d'autres qui pourront partir de cette information-là et la creuser, de l'approfondir, parce que dans le cas du deuxième tome, ça couvre une période de 10 ans, mais c'est tellement dense, tellement effervescent comme production qu'on pourrait prendre ne serait-ce qu'un éditeur et faire un travail là-dessus, ne prendre qu'une revue et faire un travail là-dessus. Tandis que là, moi, j'essaie de couvrir à peu près tout ce qui s'est fait dans cette période-là. Donc, c'est très dense et donc, je me contente. Parfois, je vais analyser un peu, je vais faire des liens entre deux choses, mais je laisse le soin à d'autres là, qui sont plus qualifiés que moi là, pour analyser plus en profondeur.
Et puis, nouveauté aussi dans ce tome-là, comparativement au précédent, c'est qu'on commence aussi à intégrer justement des articles de médias, de journaux, de témoigner de la réception de tel ou tel album, de telle ou telle production. Et à travers ça, on se rend compte aussi que finalement, il y avait quand même une belle attention médiatique pour la bande dessinée à l'époque, alors qu'on aurait pu penser que ça évoluait complètement à l'extérieur là, du spectre médiatique.
Effectivement, c'était une surprise pour moi de le constater, parce qu'il y avait il y a un mythe hein, qui disait tout le temps les médias ne s'occupaient pas de la bande dessinée, les médias ne parlent pas de BD, c'est juste à partir des années 2000 que les médias se sont mis à parler de bande dessinée, alors qu'on découvre que ce n'est pas tout à fait exact, c'est pas vrai. Les médias, les grands journaux parlaient de bande dessinée là, dès les années 70. Il y avait un engouement pour la bande dessinée au Québec, pour la bande dessinée en général, pas seulement que la québécoise. Il y avait un engouement pour la bande dessinée suite au succès d'Astérix et l'ouverture de Dargo Canada au Québec. Donc, les albums étaient très bien diffusés. Il y avait un engouement pour la BD. Les médias en parlaient et ils parlaient de la bande dessinée québécoise. Chaque fois qu'il y avait une sortie d'album québécois, il s'était mentionné, il y avait des articles. Et ça, dès le tout premier le roman graphique moderne, Aurore, celle qui en a martyr, d'André Philibert, dès que cet album-là est sorti, il y a eu des entrevues avec lui dans Le Devoir, dans la presse, et on parlait de son album. Et donc, chaque fois qu'il y avait un album qui sortait, on en parlait. Chaque fois qu'il y avait un numéro d'une publication, que ce soit Prisme ou Balloon, c'était mentionné dans les journaux, dans les parutions récentes. Il n'y avait pas nécessairement une analyse du numéro, mais on mentionnait que tel numéro vient de paraître, le numéro 6 de Prisme est en kiosque cette semaine. Donc, c'était quelque chose qui m'a surpris. Et ça, c'est grâce, finalement, à la BANQ qui a mis en ligne beaucoup de journaux, d'archives de journaux. Et grâce à leur moteur de recherche, on peut chercher par nom, par thème, par mot. Et là, on découvre, on en parle de tel livre, on en parle de tel auteur et tout ça. Fait que Donc, c'est un mythe qui est un peu déboulonné là, avec ce tome 2-là, c'est que les médias s'intéressaient effectivement à la bande dessinée dès le début.
Et ça veut dire que pour l'historien, pour celui qui essaie de refaire l'inventaire de ce qui était publié, dans une période où, tu l'as mentionné, on va y revenir, il y a eu, oui, des publications d'albums, il y avait aussi beaucoup de publications de magazines. Évidemment, il y a l'indépendant. Donc, j'imagine que chaque type de production représente un défi différent pour essayer de retracer, de savoir qu'est-ce qui a été publié. Mais comme il y avait une attention médiatique pour une partie de cette production-là, ben, ça a dû faciliter un peu ton travail d'inventaire.
Effectivement. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était, comme je disais, les entrevues qu'il y avait avec ces auteurs-là, parfois avec les équipes d'une revue. Quand un nouveau magazine était lancé, que ce soit La Pulpe à Québec ou Groupuscule en Montérégie, il y avait des entrevues avec les artisans de cette revue-là. Donc, on savait c'était quoi leur intention, on savait leur façon de fonctionner. Donc, ils parlaient de la distribution, ils parlaient des coûts, ils parlaient du tirage. Fait qu'on en apprend beaucoup grâce à ces articles de journaux-là. C'était très, très utile pour moi.
Et tout ça dans le contexte, et tu le mentionnais tout à l'heure, mais je pense qu'il faut mettre l'emphase là-dessus. Là, le premier tome, on parlait pratiquement de 100-200 ans dans le fond de production. Ouais. Ça restait quand même relativement espacé avec des périodes peut-être un peu plus intensives. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, tu as à peu près la même pagination, mais on est sur 10 ans. Donc, ouais. Dis-nous en plus, mais tu parles du printemps de la bande dessinée québécoise, mm-hmm. Pour cette effervescence-là. Donc, qu'est-ce qui amène à ce vocable-là, peut-être, d'un côté? Okay. Que représentait ouais. cette effervescence-là également?
OK. Dans la deuxième moitié des années 60, il n'y avait pratiquement plus de bande dessinée qui se faisait au Québec. Il y avait Onésime là, qui durait dans le bulletin des agriculteurs depuis les années 40. Mais si je pense en 1965, les revues catholiques Héros, François Clair ont cessé de paraître. Et jusqu'au début des années 70, il n'y a rien eu, à peu près. Il y a eu un album, je dirais, de Pierre Pexen, l'inventaire. Fait qu'il n'y avait pas de bande dessinée québécoise du tout. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un intérêt qui s'est marqué auprès de la population envers la bande dessinée suite au succès d'Astérix, comme je l'ai mentionné tantôt. C'est un gros succès en France, en Europe. Ça a amené les adultes à s'intéresser à la bande dessinée et ça a eu le même effet ici aussi. Les gens se sont dit « Ah, ben coudonc, c'est pas si sot que ça. » Je veux dire, les gens connaissaient la bande dessinée parce qu'il y en avait dans les journaux. Hein. Il y avait Tarzan, il y avait Peanut dans les journaux. Mais là, on a découvert la bande dessinée par Astérix. Ça a stimulé aussi les créateurs. Donc, il y a eu beaucoup, on a appelé ça le printemps parce qu'il y a eu comme une émergence soudainement de plein de créateurs, souvent issus des milieux universitaires ou cégepiens. Les cégeps commençaient à cette époque-là. Donc, il y a eu beaucoup de publications qui ont été lancées en peu de temps. Là. Je pense entre 71 et 73, il y a eu, entre autres, l'Hydrocéphale illustré, il y a eu BD, il y a eu Toba Hawk, il y a eu Balloon un petit peu plus tard. Mais, en tout cas, il y a eu plein de publications qui ont été lancées à ce moment-là. Et donc, il y a un journaliste artistique, Georges Rabhi, qui a fait un article sur toute cette mouvance-là et qui a appelé ça « Le printemps de la bande dessinée québécoise ». L'expression est restée depuis ce temps-là. On ne s'entend pas tous sur la durée de cette période-là. Pour plusieurs, ça va de 68 à 75, parce qu'en 1975 est paru un premier bilan, si tu veux, de la bande dessinée. C'était le livre BDK, qui était un numéro spécial, en fait, de la barre du jour, et qui était consacré à, justement, la nouvelle bande dessinée québécoise. Et donc, comme c'est paru en 75, il y a beaucoup de gens qui arrêtent le printemps-là. Moi, je le fais durer jusqu'en 79, parce que pour moi, ce qui s'est produit entre 75 et 79, c'était la continuité de ce qu'il y avait eu avant. Et c'est en 79 qu'il y a vraiment eu une cassure, c'est-à-dire c'est l'arrivée du magazine Crow, qui était là vraiment le début d'une espèce d'industrialisation de la bande dessinée, d'un certain professionnalisme. Avant ça, les auteurs n'étaient pas payés, ils faisaient par plaisir, si tu veux.
Donc, ce qui avait amené d'ailleurs une dichotomie particulière, tu parlais tantôt des grands groupes d'Argo et le reste, ben, donc vous avez des auteurs du côté européen qui se consacraient à la BD, dont c'était le métier principal, alors qu'ici, tu avais des gens qui le faisaient à côté d'autres éléments, exact. Donc ce qui rendait, j'imagine, aussi difficile d'établir ou d'amplifier une dynamique au Québec par opposition ou en réaction à la dynamique qui était beaucoup plus organisée du côté européen ou même du côté américain.
Oui, exactement, parce qu'on a fait une bande dessinée qui était plus professionnelle, produite par des éditeurs spécialisés en la matière, que ce soit autant les Américains que les Européens. Et tu avais des auteurs qui avaient une tradition de bande dessinée. Ici, c'était souvent des jeunes auteurs, comme je disais, qui étaient issus du milieu étudiant et qui n'avaient pas qui n'avaient pas de parrain, qui n'avaient personne derrière eux pour leur montrer le métier. Ils l'apprenaient sur le tas en regardant ce qui se faisait ailleurs. Et il n'y avait pas de structure non plus pour les publier. Souvent, les revues, c'était à compte d'auteur. Les auteurs n'étaient pas payés. Parfois, ils réussissaient à avoir une subvention pour sortir quelques numéros. Et donc, tu avais une bande dessinée qui était souvent de facture plus amateur que ce qu'on pouvait trouver là, en librairie qui nous venait des États-Unis ou principalement d'Europe, parce que c'est à ce moment-là, pendant ce fameux printemps-là, que les bandes dessinées européennes ont envahi carrément le marché.
Oui, puis dans le fond, tu le mentionnes aussi dans l'introduction justement de BDQ, le tome 2, où tu identifies donc ce que tu viens de mentionner, donc l'idée de l'Europe où on importe évidemment les grandes séries, Astérix en tête de liste, donc qui nous rappelle, comme tu disais, que la BD, on commence à l'avoir d'un autre œil, porter un autre regard. Et de l'autre côté, chez les Américains, on importe surtout les mouvances underground, j'ai l'impression, donc les courants anticonformistes d'auteurs qui visent à éclater le code, à éclater les approches de la bande dessinée, et donc qui vont aussi avoir une influence forte sur cette génération d'auteurs naissants-là. Oui.
Exactement, parce que la BD underground américaine avait son succès principalement auprès des étudiants, du milieu étudiant, et les créateurs venaient de ce même milieu-là. Donc, souvent, ce qu'on nous proposait dans les premières revues québécoises, c'était des expérimentations graphiques ou de la bande dessinée contestataire. Et tout ça, et d'un autre côté, tu avais les lecteurs qui, eux, cherchaient plus, finalement, des modèles plus européens. Il y avait un décalage, en fait, entre l'offre et la demande, si tu veux.
Peut-être expliquer un peu par la maturité du milieu. Dans le fond, parce qu'on avait besoin d'auteurs qui s'approprient un code, qui explorent le médium, qui comprennent le médium, et un lectorat qui était peut-être un peu plus expérimenté parce que, justement, il y avait cette BD professionnelle qui était accessible en parallèle.
Exactement, c'est ça. Oui. Parce que c'est ça, il y a eu, même chez les commentateurs dans les journaux, on espérait avoir une BD québécoise, mais souvent, on disait que ce qui était offert était de facture amateur. Et il y a eu comme deux cas où vraiment, il y a eu un intérêt de la part des médias, là, quand on poussait ces séries-là. Il y a eu Beaujoile et le Capitaine Québec qui ont eu beaucoup de presse. Hein, c'était parce que c'était, il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 70, c'était la montée du nationalisme. On voulait une BD québécoise, on voulait se retrouver dans la bande dessinée. Et ce qui était offert par les auteurs, qui étaient souvent oniriques ou expérimentales, c'était reproché souvent que c'était rien, ça ne nous représentait pas comme tel. Et là arrive Beaujoile et le Capitaine Québec, les deux cas, c'est en 1973, et ce sont des BD qui sont emblématiques du Québec. Hein. Beaujoile, c'était le Huron québécois, c'était le petit village qui résistait contre l'envahisseur anglais, ça nous rappelle quelqu'un. Et puis, tu avais le Capitaine Québec qui était un super-héros avec l'emblème du Québec. Dans les deux cas, les médias se sont emballés pour ces deux séries-là et il y a eu beaucoup d'articles. C'était assez dithyrambique, mais dans les deux cas, disons que le soufflé s'est dégonflé. Dans le cas de Beaujoile, c'était au niveau de la qualité, si je peux dire. Le premier album avait été très bien accueilli. Le troisième a été démoli d'aplomb et ça baissait tout le temps. C'était au niveau donc de la qualité. Probablement que si l'auteur avait été mieux encadré, s'il y avait eu un éditeur spécialisé qui aurait pu l'encadrer, s'il y avait eu un bon scénariste avec lui, ça aurait pu l'aider, mais ce n'était pas le cas. Et après trois albums, la série s'est écroulée. Dans le cas du Capitaine Québec, ça avait été un bon succès, ça avait très bien marché, ça a fait beaucoup parler, même un an avant la sortie du numéro, on en parlait déjà dans les journaux. Le personnage avait figuré sur des macarons, sur des affiches, il s'était promené un peu partout. Donc, il y avait une grosse attente et ça a été très bien accueilli. Il y a eu des articles dans tous les journaux à l'époque. Et le problème vient que l'auteur n'en a pas fait un deuxième numéro. Le Capitaine Québec aurait pu, à cette époque-là, devenir la locomotive de la bande dessinée québécoise. Il aurait pu être celui qui entraîne d'autres séries en arrière de lui, parce que le comique Capitaine Québec avait quand même une ou deux autres histoires là-dedans. Et dans le numéro 2, on annonçait d'autres auteurs avec. Là, le numéro 2 était annoncé, mais il n'est jamais paru. Donc, ça aurait pu être la locomotive. Et c'est Jacques Urtubise, qui était finalement l'éditeur de Crow, qui était l'éditeur de Capitaine Québec, dessiné par Pierre Fournier. Lui aussi croyait beaucoup. Il m'avait dit qu'il avait incité Fournier à faire son deuxième numéro. Puis Fournier, ben, je ne sais pas, il y avait un blocage. Mais on espérait, même quand, par la suite, Urtubise a lancé le magazine L'Illustré. C'était marqué en sous-titre « Le magazine préféré du Capitaine Québec ». C'est une façon d'essayer d'amener les lecteurs, parce que ce personnage-là était connu.
De faire comprendre que c'était des gens qui avaient de la parenté, sans dire, avec l'auteur, entre guillemets.
Exactement. Oui, c'est ça. Fait que le Capitaine Québec aurait pu être une locomotive, ce qu'il a comme refusé de faire. Et il a fallu attendre.
Ce qui a fait qu'on a dû attendre Crow dans le fond 79 pour la trouver, cette locomotive-là.
Même, je dirais même plus loin que ça, on a attendu jusqu'à Paul de Michel Rabagliati en 1999 pour avoir enfin une locomotive forte pour la BD québécoise. Parce que Crow était la première vraie revue professionnelle avec des auteurs qui étaient payés pour travailler dedans, mais Crow était principalement une revue d'humour avec de la bande dessinée. Hein, mm-hmm. C'était la nuance que Jacques Urtubise me faisait par rapport à L'Illustré, qui était paru en 1974, qui était une revue de bande dessinée avec de l'humour. Crow, c'était le contraire. C'était une revue d'humour avec de la bande dessinée. La bande dessinée représentait environ 25 % du magazine. C'est souvent ce dont les gens se souviennent. Ah, Crow, ben oui, Michel Risque, ah oui, Le Sombre et Vilain, ah, Red Ketchup, ou mm-hmm. Jérôme Bigrand, on se souvient des personnages. Mais ce n'était pas ça qui était l'élément dominant là, de la publication.
Crow, on le reconnaît plus comme étant le vecteur de la professionnalisation oui. des auteurs, de la professionnalisation de la profession d'auteur BD, au bout du compte.
Oui.
Mais comme tu dis, dans le fond, c'est Paul aux années 2000. Et donc là, on s'en va dans le tome 3 ou 4.
Ah, oui, c'est ça. Ouais, là, on est rendu dans le tome 4 ou 5. Même. On est rendu loin. Mais c'est là vraiment là, qu'il y a eu vraiment une locomotive et que là, on s'est intéressé à la bande dessinée et à autre chose. Paul a débordé. Finalement, l'intérêt qui était sur Paul a débordé sur les autres productions. Mais ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt avec le Capitaine Québec, si l'auteur avait poussé son personnage, s'il avait poursuivi la série.
Et Michel Viau, tu disais tantôt qu'il y avait une discussion, dans le fond, sur la fin du printemps de la BD québécoise. Mm-hmm. Est-ce que c'est en 75 avec le bilan de la bande dessinée québécoise? Est-ce que c'est avec BDK? Est-ce que c'est en 79 avec Crow, comme tu le signes de ton côté? Et chose certaine, l'impression que j'en ai, c'est qu'il n'y a personne qui va mettre en qui va rediscuter, si on peut dire, de la date de départ de ce printemps-là. Donc, je pense qu'un peu tout le monde identifie 1968, identifie le groupe du Chien d'An, donc Claude Effly, Marc-Antoine Nadeau, Michel Fortier, André Montpetit, comme un peu responsable de ce premier souffle du renouveau de la bande dessinée québécoise après le passage à vide, après tout ce qu'on a vu dans BDQ tome 1. Mm-hmm. Donc, c'est eux qui ont un peu... Et ça a été très rapide aussi. C'est fascinant quand on regarde ça. C'est 6 mois de production, mm-hmm. mais ils vont jeter les bases de la BD québécoise moderne en ces 6 mois-là.
Oui, oui. En 6 mois, ils ont une production qui n'est pas très fourmillante, en plus. C'est une production assez limitée. Sylvain Lemay l'a bien souligné dans son ouvrage là, « Du chien dans au printemps ». En fait, leur réputation est plus grande que leur production. C'est qu'ils ont marqué les esprits et surtout, comme je disais, l'expression « Le printemps de la BD québécoise » vient d'un article de Georges Rabhi dans la revue Culture Vivante. Et lui les a mis en valeur, surtout. Déjà là, un des premiers articles fondateurs, si je peux dire, en 1971, a mis de l'avant ces créateurs-là et tous les autres textes par la suite les ont repris comme étant les pionniers. Les quatre membres, en fait, Affely était un poète, un écrivain et un poète. Les trois autres étaient des graphistes, en fait, et ont plus œuvré comme affichistes par la suite. Ils n'ont pas en BD. Ils ont fait de la BD pendant un petit bout de temps, là, pendant 6 mois, et ensuite, ils ont fait autre chose. Là. Bon, certains, là, comme Fortier, en a fait un petit peu plus tard là, dans la revue L'Écran, mais c'était vraiment là, minime. Mais ça l'a donné comme une impulsion qui a été suivi par d'autres par la suite. Là, comme je dis, ben, c'était eux venaient du milieu de l'affiche, puis ensuite c'était dans le milieu étudiant.
Et la structure en groupe aussi semblait beaucoup rester, où les gens se mettaient en sous-groupe, presque en atelier, entre guillemets. Là.
Oui, parce que ben, en fait, souvent, ça, c'était relié à un établissement d'éducation. Tu avais l'hydrocéphale illustré qui était faite par des gars de l'Université de Montréal. Tu en avais d'autres qui venaient du Cégep de Sainte-Thérèse. Tu avais aussi un journal à Rosemont qui s'appelait Québec Pudding au Cégep de Rosemont. Tu avais les Cégeps du Vieux-Montréal et le Cégep Onsic qui s'étaient mis ensemble pour faire l'œuf. Donc, souvent, ça tournait alentour d'établissements. C'était, et ça continue ensuite par la suite, là, on retrouve le même principe des années 90 avec Krypton, qui était au Cégep du Vieux-Montréal, là, lancé par d'abord Éric Thériault, Grégoire Bouchard, et ensuite ça a été repris par Cyrus et Richard Suicide. Fait que, donc, les établissements ont beaucoup été à l'origine de publications, donc ça restait des groupes. Les gens travaillaient en groupe, c'était, ils se rejoignaient dans un établissement, ils travaillaient ensemble, et souvent, bon, comme je l'ai dit, certains réussissaient à avoir des subventions gouvernementales. Parfois, c'était l'établissement scolaire qui payait la publication, ça, entre autres l'hydrocéphale illustré à l'Université de Montréal. Et parfois, les gens payaient de leur poche pour la publication. Donc, ils étaient loin de faire de l'argent eux-mêmes puisque c'est eux qui payaient pour publier leurs œuvres.
Et j'imagine que dans un contexte comme ça, d'ailleurs, là, c'est plein de petites publications et on en voit enfin un inventaire. Je veux dire, il y en a eu beaucoup, et parfois certaines qui ont réussi quand même à avoir une certaine durée, d'autres, c'était beaucoup plus court aussi. Ouais. J'imagine ça doit être difficile de retracer, d'avoir réussi à retracer justement aussi, ben voici un peu l'état des lieux, parce que ça a été foisonnant, et de loin, on peut avoir l'impression qu'il y a deux, trois genres majeurs, qu'il n'y a pas grand-chose au-delà de ça, alors qu'au contraire, il y en avait beaucoup, et pas juste à Québec, Montréal, Sherbrooke non plus.
Non, ça, c'était les trois principaux foyers. Il y en a eu ailleurs, mais tu vois, justement, le bilan de 1975 permettait déjà de faire un défrichage et c'était un bilan qui a été fait à l'époque où ça se faisait. Fait que donc, les publications étaient déjà mentionnées, plusieurs publications. Et il y a eu aussi des gens passionnés, là, je pense à, comment il s'appelait, Michel Ouellet, qui faisait un bulletin d'information qui s'appelait BDK et qui recensait tout ce qui traitait de la bande dessinée. Si on parlait de bande dessinée à la radio, il mentionnait, il recensait les BD publiées dans les journaux, dans les magazines. Je ne parle pas de magazines de BD, mais mettons, Chatelain publiait une bande dessinée, il le mentionnait. Donc, moi, j'ai eu accès à c'était un petit fanzine, un bulletin d'information qui paraissait sur une base irrégulière. J'ai eu accès à ces documents-là et ça m'a donné plein d'informations. C'est une véritable mine d'or, là. Ça, c'est parce qu'il y avait des gens passionnés déjà à l'époque qui s'intéressaient déjà à commencer à recenser toutes ces choses-là, là. C'est utile pour le chercheur par la suite.
Et tu disais tantôt, bien évidemment, avec des personnages comme Capitaine Québec, comme Beaujoual, qu'on peut aussi recenser des tirages. Donc, ça a été des succès, mais là, on est plus en 76, en fait. Si on remonte un peu avant, en 72, la BD québécoise a eu son premier grand succès, si on peut dire, avec un tirage de quoi, quelques 50 000 exemplaires, l'histoire du Québec illustrée. Donc, comme quoi, il y avait un désir d'entendre parler du Québec à travers le médium de la bande dessinée.
Exactement, c'est ça. On était à l'époque de la montée du nationalisme québécois. Hein. Le Parti québécois a été élu en 76 à la fin de cette poussée-là. C'était la révolution tranquille qui perdurait encore. Et on avait envie, tu sais, la chanson québécoise prenait son essor avec Charlebois, avec Forestier, avec Harmonium plus tard, Octobre, tous ces groupes-là, Piché, Rivard, Beau Dommage. Le théâtre, tu avais Michel Tremblay, le cinéma de Denis Arcand, Gilles Carle, ça bougeait beaucoup dans tous les arts, sauf dans la bande dessinée, qu'il n'y a personne qui semblait vouloir investir dans le fond, là-dedans. Donc, les gens, les créateurs qui voulaient en faire devaient se tourner vers l'autopublication, vers le fanzine. Et c'est un peu dommage. Mais donc, on a eu là cet exemple-là de l'histoire du Québec illustré. C'était le premier très gros succès avant même que le livre soit distribué. L'éditeur a dû procéder à une seconde impression, là, tellement il y avait une demande. Fait qu'il y avait une demande pour la bande dessinée, il y avait de l'intérêt qui avait été créé par Astérix, par Lucky Luke, tout ça. Il y avait de l'intérêt pour la bande dessinée et il y avait de l'intérêt pour le Québec. Et les deux mis ensemble ont donné ce premier grand succès-là. Et tu vois, c'est un peu, d'une certaine façon, un aspect plus fictif et humoristique, mais Bourgeois, dans le fond, parlait du Québec. Le Capitaine Québec parlait aussi du Québec. Donc, il y avait un intérêt pour ça. Il n'y a juste pas eu l'offre.
Oui, puis en termes de tirage chez Bourgeois, pour tous ces défauts, je pense qu'on parle encore là d'une 50 000 d'exemplaires. Ouais. Donc, c'est pas des petits tirages, c'est gros succès. Comparativement au Fanzina, qui, lui, de son côté, était dans des 500, dans des 1 000, dans des 2 000 exemplaires. C'était deux dynamiques, dans le fond, un peu de distribution, de diffusion qui se côtoyaient. Mm-hmm. J'imagine pas toujours facilement non plus parce que...
Non, il y avait vraiment parce que... Avant de pouvoir avoir accès à tous les journaux de la Bibliothèque nationale, depuis qu'ils ont mis leur catalogue plus de microfilms en ligne, les seuls articles qui parlaient de la bande dessinée venaient souvent de revues de bande dessinée. Et il y avait vraiment il y avait des chapelles. Hein? Ce qui était considéré comme commercial, c'était pas bon, c'était maudit. Fait que tu avais un mouvement qui était plus contestataire. Et c'est eux qui écrivaient dans les revues, que ce soit dans l'écran ou dans Mainmise. Les principaux articles qu'on trouvait sur la bande dessinée étaient dans ces revues-là et ça dénigrait systématiquement tout ce qui avait un aspect, disons, commercial, donc plus populaire. C'était dénigré systématiquement. Et donc, on pouvait avoir l'impression que tous ces albums-là n'avaient pas marché, que ces séries-là étaient toutes très médiocres. Mais quand tu lis, finalement, d'autres journaux, tu lis La Presse, tu lis Le Devoir, ou tu lis même Éco-Vedette, des choses comme ça, qui parlent photo de police, qui parlent de ces bandes dessinées-là, tu te dis, ah ben, il y avait un intérêt, ça semblait être apprécié. Il y a des chroniqueurs qui aimaient ça, tu sais. Fait que ça rétablit un peu la situation, là. Il y a tout le temps eu un côté négatif. Tu vois, il y a un des auteurs que j'ai interviewé, il y a plusieurs années, Yves Poisson, qui me dit qu'à l'époque, vouloir faire de la BD plus populaire, avoir un scénariste pour écrire une histoire qui serait plus compréhensible, c'était considéré comme de la prostitution. T'sais? Donc, c'est ça, c'était seulement l'auteur, c'est moi. Et ça a été reproché par beaucoup de gens là, que les auteurs québécois n'ont rien à dire. Là. Il y a même au Festival BD de Montréal, le quatrième festival, c'était un sujet de conversation. Les auteurs québécois ont-ils quelque chose à dire? Parce qu'on se posait la question, justement. T'sais? Puis le résultat de cette discussion-là, c'était non. Ils n'ont rien à dire. C'était le constat. Fait que c'est... Tu vois, ben c'est ça. Tu avais des écoles différentes là, de pensée. Tu en avais qui essayaient de faire une BD plus populaire. Et c'est drôle, parce qu'en recensant tout ça, je m'aperçois qu'il y avait beaucoup d'auteurs d'origine étrangère qui sont venus au Québec et qui, eux, avaient une culture BD plus populaire. Tu sais, je pense à Henri Desclés, qui venait de Belgique, Toufik, qui venait du Maghreb, Zoran, qui venait de Yougoslavie, Robert Hénin, qui venait de Belgique aussi, Robert Lavaille, tiens, le grand succès dont on parlait, l'histoire du Québec illustré, était d'origine catalane. Il y avait Jésus Licera aussi, qui a fait les aventures de Tijan le Québécois, qui lui était d'origine espagnole. Fait qu'il y avait beaucoup d'auteurs européens qui sont venus au Québec et qui ont essayé de faire, c'est souvent chez eux qu'on trouvait la bande dessinée plus populaire, plus classique dans sa forme. C'était comme une différence un peu. C'est ce que j'ai remarqué, là, je me suis dit, ah, tiens, il y a de quoi à pousser, là, à creuser, voir. Ouais, je vais laisser quelqu'un d'autre faire cette recherche-là, par exemple.
Michel, on parlait tout à l'heure, en fait, des journaux. J'ai envie de plonger un peu là-dedans parce que je me rappelais, dans la discussion qu'on avait eue autour de BDQ, premier tome, on avait manifesté justement l'importance des journaux, des médias dans la diffusion, dans le premier âge d'or, dans le fond des années 1906, de la BD québécoise. Et on avait souligné justement que cet essor-là avait été un peu tué dans l'œuf presque par l'évolution des syndicats américains, donc de la syndicalisation où on avait des BD à bas prix, dans le fond, au bout du compte, qui étaient fournis au quotidien, aux journaux. Évidemment, on peut imaginer que la situation a perduré jusque dans les années 70. Et j'ai remarqué justement que, parce que tu parlais de Jacques Ursubis tout à l'heure, qui avait amené quelques préoccupations à une certaine époque, justement, face au fait qu'il y avait une défense des contenus québécois d'un médium à l'autre, mais pas de la bande dessinée, pas de la bande dessinée dans les journaux. Et en réaction à ça, qui avait aussi tenté de la mise en place d'une coopérative, donc les petits dessins, pour essayer de concurrencer, au bout du compte, les syndicats américains.
Oui, exactement. C'était d'utiliser le même principe, dans le fond, de faire une espèce de syndicate québécois. Parce que tu vois, on parlait, bon, que la bande dessinée est née dans les journaux. Hein, que c'est au début du 20e siècle, c'est né dans les journaux. Les Américains, assez vite, ont créé des syndicats pour distribuer leurs bandes dessinées dans plusieurs journaux. Au Québec, il n'y a jamais eu ça. Si je pense à Timothée ou les Citrouillards, c'était seulement que dans un journal. Pas la débauche était dans la presse, Timothée c'était dans la patrie, et ce n'était pas repris dans un journal de Québec ou de Sherbrooke. Ça aurait pu, mais ça ne l'a jamais été. Donc, ça restait toujours limité. Il y a eu des tentatives dans les années 30, dans les années 40. Il y a eu des bandes dessinées québécoises qui paraissaient occasionnellement dans les journaux et ça restait toujours limité, c'était toujours local. Et dans les années 70, Urtubise qui tirait dans toutes les directions, là, c'était un animateur fabuleux de bande dessinée, il était mêlé à tout, là, autant il était auteur, mais il travaillait aussi à la télévision, il écrivait dans des revues, il participait à l'organisation du festival de BD, il était partout, et a décidé de créer un syndicat québécois en se basant sur le modèle américain, c'est-à-dire de faire une BD qui pourrait être vendue dans un journal et ensuite vendue à d'autres journaux à des coûts un peu moindres. Malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Il n'y a qu'un seul journal qui a acheté leur bande dessinée. C'est le journal Le Jour, qui est un journal indépendantiste fondé par le Parti québécois à l'époque, en 1974, qui se disait, ben là, on se veut un journal indépendantiste, nationaliste, on ne va pas acheter des bandes dessinées américaines. Alors, ils ont fait affaire avec la coopérative.
Et donc, éventuellement, les autres journaux ont quand même suivi, mais sans faire affaire justement avec la coop. Je pense que j'ai compris que la presse, par exemple, à Mané, je pense en 1973, a commencé à intégrer les microbes. Rodolphe de Jean Bernèche aussi, Le Devoir, il va falloir attendre jusqu'en 1976, mais tranquillement, dans le fond, dans ça s'est fait, cette intégration-là.
Exactement, oui. Dans les années 70, justement, au plus fort de la montée du nationalisme, là, jusqu'au référendum de 80, tous les journaux ont fini par publier de la bande dessinée québécoise, là. Même des petits journaux parfois, là, des journaux régionaux. Mais le système du syndicat n'a jamais marché et souvent, les journaux vont abandonner parce qu'il n'y a aucun auteur qui peut vivre, là, qui peut concurrencer le syndicat américain. T'sais. Le syndicat, ce n'est pas compliqué. Je pense qu'un journal payait 25 $ et avait les 7 strips de peanuts pour la semaine. Là, c'est ça.
C'est pas un tarif de survie, mettons. Là.
Non, mais c'est ça le principe, c'est que Peanut était vendu dans plus de 2000 journaux. Fait que donc, c'était très, très payant pour l'auteur à ce moment-là. Mais il n'y a aucun auteur québécois qui peut se dire, OK, je vais concurrencer le tarif de Peanut, donnez-moi 25 $ par semaine, puis je vais vous faire 7 strips. Là. Ça ne marchait pas. Donc, et le fait que les journaux n'ont pas embarqué dans le système du syndicat, c'est-à-dire que, mettons, Le Devoir, le Soleil à Québec ou la Tribune à Sherbrooke n'a pas repris les bandes publiées dans la presse et en repayant l'auteur aussi un peu, ça fait que finalement la coopérative est tombée. Il y en a eu une autre coopérative dans le même genre. Je ne sais pas, elle, je ne connais pas ses tarifs parce que les auteurs ont tous abandonné la BD. Il n'y en a aucun qui est resté dans le milieu. C'était dans le journal de Joliette. C'est une autre petite coopérative qui offrait 6 bandes dessinées, mais c'est une fois par semaine dans le journal de Joliette. Donc, il y a eu des tentatives comme ça, là, mais malheureusement, ça a tout le temps fini par... C'est qu'à un moment donné, les journaux veulent bien prendre une BD québécoise, mais quand tu dis, écoute, je pourrais avoir 6 BD américaines pour le même tarif, c'est ça. Et des BD qui sont populaires parce qu'elles sont souvent... connu en dehors du journal, tu sais, tout le monde connaît Snoopy, il y a des dessins animés, il y a des figurines, il y a des publicités, il y a toutes sortes de choses avec Snoopy. Fait que tu vas avoir Snoopy dans ton journal, plutôt qu'une BD qui n'est pas connue, tu sais.
Mais surtout que la BD pas connue, mais tu la paierais 3 fois plus cher en plus que,
en plus, que Snoopy. C'est ça. Fait que,
Et Michel, quand on regarde tout ça, parce que là, on fait un état de survol, de ce que je retiens, c'est beaucoup de publications, beaucoup d'effervescence, beaucoup d'expérimentation aussi. mais ça donne l'impression, et peut-être à la limite, si je vais beaucoup plus dans la première moitié des années 70, vers l'idée justement qu'on est dans une démarche qui est très éclatée, qui est très éclectique aussi.
Oui, exactement. Oui, oui. C'était vraiment, c'était la mentalité underground où c'est l'auteur et sa vision qui importe. C'est pas de raconter une histoire au public, c'est je vous raconte ce qui me tente et si vous n'aimez pas ça, tant pis. C'est à peu près ça. Donc, il n'y avait pas vraiment je ne veux pas m'embarquer dans leur intention, mais on aurait dit qu'on dirait qu'il n'y avait pas vraiment l'intention de plaire au public. C'était vraiment l'expression de soi qui ressortait. Et c'était normal, c'était dans ces époques-là. C'était normal aussi, c'était dans le milieu, c'était des auteurs qui étaient jeunes et qui n'avaient pas de tradition ici. Comme je disais, il n'y avait pas de plus anciens d'auteurs qui auraient pu les aider. Voici comment on construit un scénario. T'sais, c'est ça que tu veux dire? Ben, gars, il y a moyen de le raconter de façon à ce que ça soit agréable, puis que ça soit accessible à tous.
Oui, un peu comme si une partie de cette génération-là, aujourd'hui, dans les années 90-2000, a accompagné les nouvelles générations,
exact.
A travaillé, a pris des charges d'enseignants, etc., etc.
Exactement. Tandis qu'il n'y avait pas ça, puis il n'y avait pas non plus, je veux dire, quelqu'un qui rentrait en 1970, qui rentrait au journal Spirou, bien, il y avait une longue tradition en arrière. T'sais. Il y avait d'anciens auteurs, il y avait des habitudes, il y avait une école de pensée. Ce qu'il n'y avait pas ici, les gens partaient de zéro avec juste leur lecture qu'ils pouvaient faire, que ce soit des bandes dessinées européennes ou des bandes dessinées américaines, souvent de l'underground. Puis ce qui influençait beaucoup qui venait de l'Europe, c'était le journal Pilote. Et pas nécessairement Astérix là, qui était dans le Pilote, c'était plus les bandes éclatées qui étaient dans le Pilote, c'était aussi Charlie Mensuel, c'était les principales influences là, chez ces auteurs-là.
Et tu mentionnes Pilote, entre autres journaux, mais il y a également Tintin aussi qui évoluait un peu là-dedans. Et dans BDQ, tu fais état d'un épisode d'ailleurs assez détaillé. Et l'épisode est assez désolant au bout du compte d'un rendez-vous manqué,
oui.
Mais complètement. Donc, c'est je contextualise en fait les Jeux olympiques de Montréal qui amènent quand même pas mal d'attention vers le Québec. On est en 76 et il y a l'idée justement du côté de Tintin, dans le fond, de s'intéresser à la bande dessinée québécoise. Il y a une recension qui est faite, en fait, avec 16 artistes qui fournissent des planches qui seraient destinées à y être publiées. Mais finalement, je découvrais là-dedans, c'est comme, je veux dire, tout s'est passé au pire.
Oui.
Dans le fond, on aurait imaginé le pire oui. scénario, on n'aurait probablement pas imaginé le scénario qui s'est passé réellement.
C'est assez hallucinant quand on y pense. En fait, c'est ça, c'est que le journal Tintin cherchait un angle. Comment parler du Québec d'un angle original? Ah, on est une revue de bande dessinée, on va parler de la bande dessinée québécoise. T'sais. Fait que, donc, c'était leur façon de traiter du Québec et des Jeux olympiques, c'était de parler de la bande dessinée québécoise. Donc, c'est Henri Desclée, qui était alors rédacteur en chef du journal Tintin, qui a commandé les bandes dessinées. Malheureusement, au moment où le supplément, qui était supposément un supplément de 16 pages au centre du journal. Quand le supplément a paru, M. Desclée n'était plus là. Il avait été remplacé. Et donc, le journal, le supplément est paru. Il est paru en Belgique. Mais ce qui arrivait, c'est que les copies qui étaient importées au Québec, pour que ça coûte moins cher à transporter, le distributeur faisait arracher les suppléments qui étaient en papier journaux, qui étaient au centre du magazine, pour que ça soit moins lourd et que ça coûte moins cher. C'était souvent du contenu qui était plus local, mais là, on avait le supplément de bande dessinée québécoise et le supplément était arraché de tous les numéros. Je me souviens, moi, je l'achetais à cette époque-là, 1976. Ah, spécial BD québécoise. Il y avait 3 pages de BD québécoise dedans. Éparpillé, 3 pages couleur, mais le supplément qui était noir et blanc au centre n'était pas là. Donc, j'avais trouvé qu'il était un peu cheap, mais ce qui était le pire, c'est qu'il n'y a aucun des auteurs québécois de l'époque qui avait participé, qui l'a vu, ce fameux supplément-là, parce qu'ils n'ont pas reçu d'exemplaire avec le supplément, ils ont reçu l'exemplaire avec le cahier arraché.
Ça devait être vécu comme une douche froide assez intense.
Oui, ça a été une très, très grosse déception. J'ai réussi à trouver le fameux supplément parce que dans les recueils du journal Tintin, les suppléments sont là. Fait que, si on achète le recueil, je pense que c'est le numéro 45. Si on achète le recueil numéro 45, il y a le supplément de bande dessinée qui est à l'intérieur. C'est qu'on peut le voir.
Il y a eu cet intérêt-là de Tintin, mais peut-être de façon plus durable et substantielle. Tu avais mentionné Dargaud tantôt, mais Dargaud a mené, au fil des années 70, a vraiment consolidé sa présence au Québec.
Oui.
J'ai l'impression pour le meilleur ou pour le pire aussi, parce que justement, ça a aussi renforcé la présence de la BD franco-belge professionnelle, structurée, versus une BD québécoise qui peinait
qui était
à trouver sa
naissante,
place,
oui. Exactement. Ah oui, Dargaud est arrivé au bon moment. Il avait l'intérêt pour sa bande, pour la bande dessinée avec Astérix. Toujours, on revient toujours à Astérix. Et Dargaud s'est implanté au Québec, a ouvert Dargaud Canada avec la participation d'Yves Michaud, qui était le rédacteur en chef du journal Le Jour, qui publiait les bandes dessinées de la coopérative des petits dessins. Mais Yves Michaud, s'était associé avec Dargaud pour ouvrir Dargaud Canada. Et tous les albums de Dargaud qui sortaient à cette époque-là avaient la mention Dargaud Canada en page titre et étaient super bien distribués. On les trouvait partout. On les trouvait dans les pharmacies, on les trouvait à l'épicerie. Chez Steinberg, on avait un rack avec les Astérix, Bob Morane, Blueberry. Je me souviens, je les achetais là à l'époque. Ça coûtait 1,95 $. Oui, ça a bien changé. Donc, lui s'est implanté au moment où il y avait un engouement pour la bande dessinée. Lui est arrivé avec ses beaux albums et tu avais les albums québécois qui, pendant des années, des décennies, ont ramé en arrière parce que les Québécois ne pouvaient pas se permettre l'album cartonné, ne pouvaient pas se permettre l'album couleur. Fait qu'il y a tout le temps un côté, la bande dessinée, c'est cheap comparé aux beaux albums européens. C'est
et
dommage.
On semble avoir essayé d'y pallier parce que je voyais dans l'inventaire, dans le fond... Entre autres, à faire des liens avec le petit écran, avec la télévision, avec les personnages qu'on retrouvait. Je veux dire, il y a eu des BD du Capitaine Bonhomme, de Patoff, de Bobino Bobinette, de Nick Epic, etc. Donc, on se cherchait des héros québécois, clairement.
Exactement, c'est ça. C'est qu'il n'y avait pas d'éditeur ici de bande dessinée. Et les rares personnes qui s'intéressaient à la BD voyaient, ils étaient souvent associés avec des réseaux de télévision, et voyaient dans ces personnages-là, on va faire ça devenait des produits dérivés. Le personnage est connu, on va en faire des albums de BD, ça va marcher, Astérix, ça marche. Donc, on a eu tous ces personnages-là, Nick Epic, Bobino, de Radio-Canada, on en a eu aussi de Télémétropole à l'époque, et TVA aujourd'hui, là, Patoff, Capitaine Bonhomme. Il y a même une Nestor, le personnage de Claude Blanchard, qui lui était dans un journal, c'était dans photo-journal. Je me souviens bien qu'il y avait une bande dessinée hebdomadaire de Nestor. Donc, on essayait de prendre des personnages déjà connus. Au lieu de partir à zéro et de créer des personnages, comme il y a aussi des tentatives, de Beaujoual, c'était ça. On partait d'un personnage original. Mais donc, on essayait avec des personnages déjà connus de faire des choses, mais souvent, les auteurs étaient, eux, sans trop de profession. Les éditeurs ne connaissaient pas la bande dessinée, ils ne pouvaient pas les guider. Ça a fait bien, bien souvent des albums assez médiocres.
Et en parallèle, on aurait pu imaginer qu'avec la présence de Dargaud au Canada, plus soutenu, qu'il y aurait eu un intérêt pour des auteurs du Québec. Tu disais dans BDQ qu'il y avait des Québécois, il y avait Pierre Fournier, je pense, qui avait été mobilisé pour aller débusquer des talents, proposer des projets, mais finalement, il a réussi à en faire passer aucun. Il n'y en a aucun qui a été accepté par Dargaud comme tel.
Non, aucun. Madame Michaud, qui était la directrice, l'épouse d'Yves Michaud, Monique Michaud, était la directrice de Dargaud Canada, puis elle disait que Bon, les auteurs n'étaient pas assez matures ni dans leur dessin, ni dans leur scénario, et il y avait aussi, la barrière de la langue. C'est écrit en joual, bien surtout, encore plus à cette époque-là, où le Québec était peut-être moins connu de la France, ça ne passait pas du tout. Fait qu'il n'y a aucun projet qui a été retenu là, de ce que Pierre Fournier a pu présenter. Et même, il y a eu, à un moment donné, c'était un gros événement, la visite de l'équipe Dargaud au Canada. C'était phénoménal, là. Tous les artisans de pilotes sont venus à Montréal, Goscinny, Uderzo, Charlier, Giraud, Gottlieb, Bretéché, Mandrika, ils sont tous venus à Montréal et à Québec. Ils ont fait des tournées, ils sont allés dans les cégeps et dans les salons du livre. Et il disait en entrevue que ce qu'il voulait, c'était trouver les auteurs québécois pour avoir une participation québécoise dans Pilote, parce que, bon, on parle français, Pilote est vendu ici, mais ça s'est pas fait non plus, là. Encore là, c'était une douche froide et c'était accueilli assez fraîchement là, par certains chroniqueurs qui, un an après, ont dit, où sont les Québécois qu'on nous a promis? Là, on est venu faire un gros show de boucan, puis finalement, il n'y en est rien
Ça nous
resté.
ramène un peu à ce qu'on disait au départ, dans le fond, et de l'intérêt de dire, OK, le printemps est fini en 79, parce qu'au bout du compte, on a plein de faux départs
Oui.
pendant 10 ans, depuis 1968, parce que justement, peut-être que les auteurs n'avaient pas réussi à professionnaliser leur pratique au
Exactement.
niveau où ils devaient l'être pour avoir cette reconnaissance-là, au bout du compte.
Oui, exactement. C'est ce que Jacques Courtibis le disait lui-même dans les années 70, c'est que souvent les auteurs faisaient ça sans encadrement et faisaient ça à temps partiel. Tu vois, au dernier festival de BD de Montréal en 78, ils ont mis un nouveau critère. Parce qu'avant ça, les trois premières éditions, tout le monde qui voulait y participer soumettait ses planches. À la quatrième édition, ils se sont aperçus que donc, il y en a qui, c'est tout le temps les mêmes pages qu'ils nous proposent à chaque année. À la quatrième édition, ils ont décidé de dire qu'il fallait qu'il y ait une production originale de 10 pages dans l'année pour pouvoir exposer. Et là, ça a droppé de plus de 50 % la participation, là. Parce que donc, les gens ne faisaient pas de bande dessinée. Fait que, donc, c'est sûr que tu n'évolues pas, tu ne t'améliores pas si tu ne produis pas. T'sais. Et le fait aussi que la plupart des publications tombaient après quelques numéros, ce n'est pas encourageant. T'sais. C'est tout le temps le fun pour un auteur de se voir publier. T'sais, puis de se voir publier avec d'autres, puis là, de se comparer, puis de se parler, puis de travailler, t'sais, de s'améliorer. Fait que si les revues tombent toutes, tu n'as pas d'encadrement, tu n'as personne qui te stimule, ben, t'sais, tu t'en fais pas trop. Fait que,
Oui, puis même les revues qui étaient plus durables, on parlait d'Hydrocéphale Illustré, on a parlé de BD. Il y en a eu plusieurs comme ça qui ont quand même réussi un peu à s'imposer, mais encore là, c'est toujours un certain temps.
Oui, c'est très rare les revues qui ont dépassé sept numéros. Hein. C'est souvent quatre, trois, quatre. Il y en a une seule, en fait, qui s'est rendue à 13, et c'est La Pulpe, qui était publiée à Hull, à l'époque, Gatineau aujourd'hui, qui était subventionnée par un organisme communautaire. Mais eux se sont rendus à 13 numéros. C'était un mélange de BD et de d'autres choses. Là, le dernier numéro, il n'y a pas beaucoup de bande dessinée dedans. Mais donc, c'est le seul. Sinon, Balloon, ça a été sept numéros. Prisme, ça a été sept ou huit. Sinon, Tomahawk, ça a été trois. L'Hydrocéphale Illustré, ça a été deux. Balloon, ça a été six. Ça tournait alentour de ça, là, les publications. Fait que ça durait des fois 2 ans parce que ça sortait de façon irrégulière parce que les gens n'avaient pas d'argent. Fait que ça sortait quand ils avaient les sous pour sortir leur numéro. Ça aide pas à fidéliser un lecteur. Quand tu sais pas quand est-ce que le numéro va sortir, tu y vas, ah, il n'est pas là, pourtant ça fait un mois, tu y retournes 2 mois tard, tiens, c'est ça. Fait que donc, il y avait ça. Il y avait aussi beaucoup de... Il y avait une très mauvaise distribution. La plupart de ces publications-là, des rédactions, refusaient de faire affaire avec des distributeurs professionnels parce que ceux-ci prenaient trop gros. Ils prenaient genre jusqu'à 35 % du prix de vente. Fait
Il y
qu'ils
avait
voulaient...
déjà un enjeu pour se payer comme tel, ça
C'est
devenait.
ça. Puis s'ils voulaient être compétitifs avec les revues européennes, qui faisaient, dans le fond, qui envoyaient leurs vieux numéros invendus, hein, les pilotes qu'on recevait ici, les Pif, les Tintins, c'était ceux qui avaient été mis en kiosque en France, en Belgique, qui avaient été retournés à l'éditeur, puis nous les envoyaient après. Fait que, donc, c'était comme un deuxième service. Donc, ils pouvaient se permettre des ventes pas chères. On accusait Dargaud de faire du dropping là, avec Pilote, là, qui perdait quasiment de l'argent. Le prix de vente était moins que le coût de production, mais c'était des numéros qui avaient été pas vendus en
Tant qu'elle est
France.
pilonnée, dans le fond, si
C'est
bien
ça.
les.
Ils nous les envoyaient. Fait que s'ils pouvaient faire 7 cents avec chaque numéro, c'était déjà ce prix. Fait que donc, mais si tu voulais compétitionner ces revues-là, il fallait que tu vendes à un certain prix. Et même en général, les revues québécoises étaient vendues un petit peu plus cher que les européennes. Mais si on faisait affaire avec un distributeur qui prenait 35 %, il aurait fallu monter encore plus le prix.
Puis dans un contexte où c'est presque de la compétition, je veux dire, c'est pas très sympathique de la part des pilotes, par exemple, de faire ce entre guillemets dumping-là, pratiquement, parce que d'un côté, ben, tu limites beaucoup, tu crées une impression de cherté où là, il n'y aurait pas nécessairement lieu d'être. Et ce n'était pas nécessairement non plus facile de voir, OK, ça, c'est le numéro de telle année, de tel mois. C'était pas clairement indiqué sur les couvertures non plus.
Là. Non, sauf quand tu voyais le Père Noël en couverture au mois de juillet, là, tu doutais de quelque chose. C'est arrivé souvent pour les journaux. Tous les lecteurs de ces journaux-là étaient habitués. On savait qu'on recevait, pas qu'on recevait les invendus qui étaient dompés ici, mais qu'on recevait avec un retard. On dit, c'est à cause du bateau, mais non, c'est plus que le bateau. Là, c'était la vente en kiosque là-bas, le retour à l'éditeur et ensuite le bateau.
Donc, on n'était pas sur les 3 mois actuels, mettons.
Non. On avait ça assez loin quand même. Mais donc, c'est une compétition qui était un peu déloyale et que les revues québécoises ne pouvaient pas affronter. Et c'est pour ça que c'était très difficile. Ça a tout été comme une série de faux départs.
Un rendez-vous manqué, finalement, cette décennie-là, on pourrait dire?
Oui, tout à fait. Tout à fait, un rendez-vous manqué parce que en plus, il n'y avait pas de concordance avec l'offre et la demande. Je veux dire, ce que les lecteurs voulaient lire, c'était de la BD plus classique. Ce qu'on nous envoyait d'Europe et ce que les créateurs offraient, c'était une BD qui était plus personnelle, plus expérimentale. C'est sûr qu'avec le temps, les goûts des lecteurs ont changé, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une bonne concordance entre les deux. Mais à cette époque-là, où les gens découvraient la BD, ils n'étaient pas prêts tout de suite à aller à la BD expérimentale. Quand tu la découvres, tu veux avoir de la BD plus classique. Donc, c'était des rendez-vous manqués, des tentatives, des essais. Mais à travers ça, il y a eu quelques auteurs quand même qui se sont formés et certains ont perduré, certains continuent encore aujourd'hui. Je pense à Réal Godbout qui a commencé dans ce temps-là, Pierre Fournier qui est beaucoup moins productif aujourd'hui, mais il y a aussi Serge Gaboury, Mario Malouin, André-Philippe Côté qui ont commencé tous dans les années 70 là, et qui continuent encore aujourd'hui à produire et à faire de la BD. Jean-Paul Hyde, lui, est apparu vers la fin. Il est apparu dans les années 80. Mais donc, il y a quelques auteurs qui sont maintenant devenus, d'une certaine façon, peut-être des passeurs pour les nouvelles générations.
Et des auteurs qu'on va suivre, au bout du compte, dans le tome 3 et les tomes suffisants de BDQ.
Oui, exactement. Oui, dans le 3 et éventuellement le 4. J'y travaille beaucoup moins rapidement parce qu'il ne faut pas oublier que ce tome 1 et 2-là, ce sont des rééditions très augmentées d'un livre qui est apparu en 2014. Quand je dis très augmenté, on est passé d'un livre de 344 pages à deux livres qui font ensemble 860 pages. Fait que c'est considérablement augmenté. Là, je travaille sur le troisième tome tout en faisant des scénarios pour différentes séries de BD. Donc, c'est un peu plus long.
Mais de toute façon, comme tu le dis, on a déjà 854 pages à se mettre sous les yeux pour accompagner notre compréhension. Et je pense ce qu'on a essayé de mettre en exergue au fil de la dernière heure, au fil de l'heure d'ailleurs de l'automne dernier, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez retourner dans les balados sur laviambd.com aussi, mais de prendre conscience de la richesse de la production de la BD québécoise, de son évolution. Et évidemment, tout ce qu'on vous dit, c'est des bribes, c'est des éléments, c'est des clins d'œil, mais il y a énormément de stock là-dedans pour se bâtir, pour comprendre, dans le fond, peut-être un peu cette chronologie-là et ensuite aller plonger dans d'autres ouvrages ou de retracer certaines BD. Bref, je trouve que c'est des belles portes d'entrée sur la richesse de la production et en prendre conscience. Michel Viau, merci beaucoup pour cette rencontre.
Ça fait plaisir, Raymond.
Et je rappelle que l'ouvrage dont on traitait aujourd'hui, ça s'appelle BDQ, donc tome 2, le printemps de la bande dessinée québécoise de 1968 à 1979. C'est publié du côté de chez Station T et c'est disponible chez tous vos bons libraires. Alors, c'était Raymond Poirier au micro de La Vie en BD. On souhaite une bonne semaine et nous, on se revoit dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Alors, bonne semaine à tous et à toutes.